Merci, Monsieur le Président, et merci au GCRL pour m'avoir entraîné dans une étude plus approfondie de la laïcité dans les zones sur lesquelles je travaille que je n'aurais faite dans une autre équipe. Je tenais à le préciser. Donc, ce que je me propose, c'est de vous dresser une histoire rapide de la laïcité dans la République turque et ensuite donc de vous donner une analyse donc des débats en cours donc sur cette au-dessus de cette même laïcité qui est revisitée et dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle risque de devenir dans un avenir assez proche. Donc la laïcité s'inscrit en 1936 dans la constitution de la nouvelle République de Turquie que Mustafa Kemal, donc le futur Atatürk, fonde en 1923. C'est une laïcité autoritaire. Certains kémalistes ont même parlé d'une laïcité de guerre. Elle place la religion donc sous le contrôle d'une présidence des affaires religieuses, chargée de gérer le culte, mais qui n'intervient pas dans le champ théologique. Institution devenue par la suite un ministère des affaires religieuses. Le kémalisme a en effet un projet précis pour l'islam. Celui-ci ne doit pas être éradiqué, mais réformé et écarté des affaires politiques et publiques, repoussé dans la sphère du privé. Une nation sans religion est vouée à disparaître, écrit pourtant Mustafa Kemal en 1932. Il n'empêche que, comme tout réformiste, il garde une opinion précise sur cette religion, il tolère le bon islam et s'emploie à éradiquer le mauvais. La Turquie moderne donc, se construit en fait entre 1925 et les années 30 au rythme d'un ensemble de réformes qui, au nom de la laïcité, s'attaquent à deux domaines précis. Le premier, ce sont les fondements sociétaux de cette religion, de l'islam, à savoir ses écoles, donc l'éducation, et ses tribunaux. À sa visibilité, la coiffe, l'habit, les titres, etc. Et deuxième grand point, à l'héritage ottoman qui constitue le socle culturel de cette religion, c'est-à-dire la langue, l'écriture, la littérature et la symbolique. Le projet kémaliste, clairement compréhensif, donc pour citer Rawls, c'est-à-dire porteur d'une certaine vérité, comme l'est du reste sa laïcité, qui n'est donc pas et ne sera jamais une neutralité, se dote, outre la présidence des affaires religieuses, qui gère le culte, donc mosquée, pèlerinage, d'une faculté de théologie, en 1928, chargée de fabriquer un islam scientifique et national, et de quelques écoles d'imams, dont l'objectif est de former des personnels éclairés. Après 1950, graduellement et parfois d'une manière accélérée, selon les partis au pouvoir, démocrates de droite ou conservateurs religieux, ces trois institutions, donc, que je viens de vous citer, s'écartent petit à petit donc de leur fonction première. Le ministère des Affaires religieuses devient, à partir des années 80, une institution religieuse d'obédience sunnite à part entière. Mais il devra composer, au moins jusqu'à ces dernières années, avec la laïcité turque dont les gardiens sont l'armée et les juges. Les facultés de théologie forment des théologiens désormais indépendants et les écoles d'imams fonctionnent, et c'est une perversion tout à fait extraordinaire, fonctionnent dès lors comme des écoles confessionnelles plutôt que comme des centres de formation d'imams. Entre 1950, la victoire du Parti démocrate sur le parti créé par Atatürk et le début de l'assouplissement des mesures antireligieuses jusqu'en 2002, arrivé au pouvoir de l'AKP, le pays a connu deux grands moments au cours desquels, d'après les kémalistes, la laïcité a été menacée. Ces moments correspondent en fait au gouvernement de coalition auquel a participé l'islam politique, avant sa division qui a donné l'AKP, c'est-à-dire en 1974, en 1976-77 et en 1997-98. La présence des islamistes au pouvoir permet, entre autres, aux acteurs religieux d'investir les différents appareils de l'État et de mettre en place des réseaux efficaces et qui le seront naturellement par la suite. Parallèlement, apparaissent de nombreuses associations aux objectifs religieux non avoués, car de telles associations sont contraires à la loi. Une presse religieuse et le système bancaire islamique fait également son entrée en Turquie. De même, les écoles d'imams, donc, devenues des écoles confessionnelles, remportent un étonnant succès, exceptionnel succès. Et le camp laïque les considère comme le réservoir des futures élites islamiques, et ils ne se trompent pas. Puis le port du voile, un temps interdit dans les institutions publiques et à l'école comme à l'université, est autorisé. Mais ce retour exceptionnel du religieux, donc une aberration dans la Turquie d'Atatürk, ne dure pas. Au nom de la laïcité menacée, en 1997, un coup d'arrêt, excusez-moi, brutal. C'est un coup d'État en fait, mais. Donc un coup d'arrêt brutal, orchestré par les militaires, met un terme aux avancées de l'islam. C'est un coup d'État postmoderne, sans chars ni soldats, c'est ainsi qu'on le décrit, donc fondé sur l'intimidation. Le gouvernement auquel participe le parti islamiste de Refah, au moment de ce coup d'État postmoderne, est contraint d'adopter un train de mesures qui frappe les écoles d'imams, en premier lieu, les confréries, qui se déguisent, enfin, qui se cachent sous des associations du type loi 1901, les associations et la presse religieuse et la finance islamique. Le parti de Refa est obligé de quitter le pouvoir, puisqu'il est dissous et nombre de ses députés sont interdits d'activité politique pour 5 années. Erdogan en fait partie. Reconstitué 1 an après, sous un nouveau nom, le nom de Fazlet, le parti montre qu'il dispose toujours d'une puissante base électorale. Il est alors le premier parti du pays. Mais il est à nouveau interdit, et en 2001, l'islam politique se divise. Son aile libérale assouplit son discours et fonde le parti AKP, qui remportera haut la main les élections de 2002, ce qui lui permet de diriger seul le pays et pas en coalition. Et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'il vient de remporter des élections au début de ce mois. Très tôt, les islamistes, et en particulier l'AKP, avant et après 2002, rediscutent la laïcité. Ils déplorent que celle-ci ne respecte ni la séparation ni la neutralité. Elle est à leurs yeux donc, je répète ce que j'ai dit au début, une doctrine compréhensive qui vise une vérité et qui combat la religion. Et pour montrer son ouverture et sa vision autre de cette laïcité, l'AKP met à l'avant le pluralisme religieux et entend régler la question épineuse de l'alévisme, qui est un courant donc de l'islam turc, qui appartient à l'islam mais pas au sunnisme, 1/4 de la population du pays à peu près. Et cet alévisme donc, l'AKP se propose de reconnaître sa pratique religieuse et sa spécificité, ce qui n'avait jamais été le cas et qui avait toujours été refusé par les gouvernements précédents. L'AKP, quoique à la tête du pays à partir de 2002, n'est pas moins sous la surveillance de l'armée et des juges, prêts à intervenir en cas de manquement à la loi sur la laïcité. La leur, naturellement. En 2008, le parti frôle la dissolution et ses dirigeants, comme de nombreux députés, sont menacés d'interdiction d'activité politique pour avoir tenté de mettre un terme à l'interdiction du voile à l'université et dans les établissements publics. Il n'est plus question. Après cette date, la stratégie adoptée par le parti est alors très simple. Il n'est plus question de légiférer dans le champ du religieux tant que les puissants représentants du kémalisme sont à l'affût. L'AKP passe très vite à l'offensive. Et bon, je vais vous épargner les détails, mais en fin 2011, l'establishment donc militaro-judiciaire est neutralisé d'une manière définitive. C'est un grand tournant dans l'histoire de l'islam politique et dans celle de la République. On a même écrit que c'était la fin du kémalisme. L'AKP va alors s'employer à donner, dit-il, aux musulmans les libertés auxquelles ces derniers ont droit. En 2013 et 2014, les deux questions les plus controversées de ces 30 dernières années sont réglées à l'avantage des religieux et aux grandes dames de leurs opposants, le camp laïque donc. 1. Le port du voile est libéralisé, c'est une grande victoire symbolique. Il entrera à l'université, au Parlement, et sera même porté par l'épouse du président de la République. 2. Les écoles d'imams retrouvent leur puissance et leurs normes se multiplient d'une manière exponentielle. Outre ces mesures, l'AKP intervient également dans le domaine de l'éthique. Réduction du délai légal pour avorter, limitation de vente d'alcool, contrôle de la mixité dans les cités universitaires et tentative avortée de criminaliser l'adultère. Dans le même temps, le champ d'action et les moyens du ministère des Affaires religieuses sont renforcés. Son budget le place parmi les ministères les mieux dotés. Quant aux associations religieuses et aux confréries, toujours interdites naturellement en tant qu'associations religieuses, elles tirent parti du climat favorable pour se développer dans des conditions jamais vues auparavant. Au cours de ses premières années de gouvernance, l'AKP propose, contre la laïcité kémaliste autoritaire et antireligieuse, la mise en place d'une laïcité neutre qui donnerait une pleine liberté à toutes les religions du pays. De là donc leur ouverture à l'alévisme, un choix courageux, car cette mouvance a toujours incarné chez les sunnites la plus abjecte des hérésies. C'est un peu, si je pouvais me livrer à cette comparaison, si aujourd'hui l'Église catholique devait avoir à traiter avec un courant cathare ou des albigeois toujours existants. Vous voyez la différence, on ne sait pas. Ça a été beaucoup plus facile pour les sunnites de s'entendre avec les chiites, alors qu'on sait que partout ailleurs ils se déchirent. Après 2010, toutefois, le camp laïque n'est plus en mesure de les inquiéter. Lorsque le camp laïque n'est plus en mesure de les inquiéter, l'AKP semble remettre en question, et sans jamais l'avouer ouvertement ou rarement, l'idée de neutralité. Fort de la constatation que la population du pays, dans sa grande majorité, appartient à l'islam et qu'elle est pratiquante. Les débats de la commission, composée de représentants de tous les partis politiques, mise en place à partir de 2011 pour la réforme de la Constitution constitution jusqu'à présent qu'ils appelaient militaire, car adoptée sous un régime militaire, et ils désirent, donc l'État désire adopter une constitution dite civile, donc revoir cette constitution. Donc les débats de cette commission donc, pour la réforme de la constitution laissent apparaître des dissensions vives sur la question de la liberté religieuse et de pensée. L'AKP voudrait que l'enseignement religieux ne soit plus passé sous le contrôle du ministère de l'Éducation, alors qu'il s'agit d'une des grandes lois de la République kémaliste qui avait défendu l'unicité de l'enseignement et qui voulait absolument que l'enseignement, toutes les écoles, soient sous le contrôle du ministère de l'Éducation et pas sous le contrôle des religieux. Donc première mesure qu'ils discutent. Le parti entend aussi officialiser les cours de religion obligatoires dans les lycées. Enfin, il demande la liberté d'association pour des motifs religieux, ce qui autoriserait de facto donc également les confréries soufis, interdites depuis 1925 et fonctionnant aujourd'hui dans la clandestinité, à se reconstituer, ainsi que beaucoup d'autres associations religieuses. Concernant les cours de religion obligatoires, l'AKP se défend de tout manquement à la laïcité et à sa laïcité, la neutralité, en précisant que ces cours ne sont pas d'ordre éducatif, ni une catéchèse, mais à vocation culturelle et formative. Quant à remettre en cause la présence de la laïcité dans la Constitution, ce n'est pas l'envie qui manquerait à mon sens au parti d'Erdogan, mais cela est actuellement impossible dans la mesure où l'article 4 de la Constitution défend l'intangibilité des principes constitutionnels, dont la laïcité, établie par les trois premiers articles de la Constitution. Et pourtant, cette laïcité n'est plus aujourd'hui, on pourrait presque dire, qu'une coquille vide que chacun remplit à sa manière. Récemment, une proposition du théologien Hayrettin Karaman, spécialiste de droit musulman et conseiller de l'AKP, va même dans le sens, je dirais, d'une sortie de la laïcité. Celui-ci encourage en effet une suppression du ministère des Affaires religieuses, donc une véritable séparation, et la création d'un conseil autonome constitué de représentants qui répondraient aux besoins de la société en matière de religion. Société majoritairement musulmane, rappelle-t-il. Son financement, toutefois, serait assuré par des fondations charitables ou par un impôt de services religieux, prélevé auprès des citoyens par l'État. On relèvera les ressemblances avec le système de partenariat privilégié qui lie les églises à l'État en Allemagne. La Turquie s'acheminerait-elle lentement vers un système politique privilégiant une religion établie, parce que religion de la majorité, je ne fais que répéter ce que disent mes acteurs. S'il se présente sous une forme libérale, ce système n'est pas contraire au droit international et s'apparente à ceux existants dans les pays du nord de l'Europe. Mais il importe alors pour la Turquie de respecter l'égalité de droit de ses minorités religieuses et des alévis principalement, et également des yézidis qui existent sur son territoire. Et c'est justement l'un des grands projets de l'AKP de ces dernières années, mais qui ne va pas sans difficulté, car reconnaître les droits de cette communauté impose, dans l'esprit de l'AKP, qu'elle soit assimilée ou au moins rendue moins hérétique qu'elle ne l'est. Et naturellement, tous les alévis, parce qu'il n'y a pas un alévisme, il y a des différents groupes d'alévis, ne sont pas tous d'accord. Et même les chiites de Turquie n'ont pas représenté un même problème. Donc les atermoiements du gouvernement, ces contradictions de la mise en pratique de la neutralité, certains disent qu'il n'agit pas comme il le dit, d'autres au contraire admettent qu'il fait vraiment des efforts dans cette voie. Bon, toutes ces contradictions reflètent en fait le désaccord et même les conflits vifs qui divisent les membres du parti sur de nombreux points doctrinaux et sur l'attitude à tenir à l'égard des autres religions et des mouvances autres que le sunnisme. Le sunnisme turc est loin d'être homogène. Plusieurs lignes de fracture désarticulent ainsi la politique religieuse du parti. En premier lieu, on citera la lutte pour le pouvoir qui déchire depuis 2013 l'AKP et les membres de la puissante association Hizmet de Fethullah Gulen, l'une des plus puissantes associations musulmanes de la planète, sachant qu'il existe un désaccord ancien et profond entre l'islam politique et cette association qui prône un islam réformiste. Un autre conflit encore moins connu oppose le milieu des confréries les plus austères à des théologiens modérés. Les principaux points d'affrontement sont la question du dialogue interreligieux et l'ouverture aux autres minorités musulmanes, dont l'alévisme. Et ce ne sont pas des points mineurs, car ils constituent la frontière entre une pratique libérale ou illibérale d'une politique religieuse accordant un privilège à la religion, si la Turquie se dirige, va dans cette voie. Alors, on peut dire quelle orientation la Turquie prend-elle aujourd'hui, donc sous la direction de l'AKP ? Peut-être une sortie déguisée mais programmée de la laïcité et l'adoption, je tentais de dire, d'une sécularité éclairée, donc je pense encore donc, à l'Allemagne. Erdogan ne déclare-t-il pas en 2014, lorsque les écoles d'imams retrouvent leur liberté d'action, donc les écoles confessionnelles retrouvent leur liberté d'action, qu'il est temps, je le cite, de former une génération de bons croyants. On songe encore, excusez-moi de faire référence à l'Allemagne, au chancelier Kohl qui, dans la bataille sur la présence des crucifix dans les lieux publics en 1995, faisait référence, et je cite, à la tradition chrétienne de l'Allemagne. Et l'AKP, donc, ne rappellerait-il pas, lui aussi, à certaines occasions, une tradition musulmane de la Turquie? Alors, est-ce que son électorat suivra le parti ou le président dans cette voie? Est-ce que le gouvernement ne va pas essayer de passer en force? Vous voyez, la situation est encore sous l'étude, en fait, étudiée encore par les spécialistes, et seul l'avenir peut nous dire ce qu'il en sera. Cela dit, il a très dernièrement, l'une des premières mesures prises par le parti, après sa victoire en novembre, a été justement de relancer cette ouverture à l'alévisme, et vraiment de la relancer de manière, vraiment, avec des actions pratiques, en pensant à rémunérer les acteurs religieux donc, de ce groupe, etc. Sans doute pour justement montrer que si le pays, donc le parti, adopte en quelque sorte, on peut dire, plus ou moins une religion, donc développe un partenariat, il entend absolument donc être tout à fait donc respectueux de la liberté des autres groupes minoritaires musulmans. Alors je n'ai pas cité naturellement le cas des non-musulmans, donc des alévis, des chrétiens et des juifs, parce qu'eux ont déjà un statut particulier et bénéficient déjà donc de droits et de libertés religieuses. Mais enfin voilà en théorie actuellement la photographie donc, que je pourrais faire de l'état actuel de la laïcité turque. Merci.
Merci beaucoup.